Nous reprenons, si vous voulez bien, avec Jean-Louis Chrétien, qui est un très ancien ami et qui est un très grand philosophe voisin de la Sorbonne. Nous avons été collègues longtemps. Il y enseigne l'histoire de la philosophie de l'Antiquité tardive et du Haut Moyen-Âge. Et vous le connaissez à la fois par un grand nombre d'ouvrages de philosophie qu'il a publiés, de théologie et de phénoménologie, et puis également par plusieurs recueils de poèmes depuis 1985. Je voudrais évoquer l'un de ses derniers livres, l'avant-dernier livre, qui est celui qui m'a fait penser à l'inviter dans le cycle de cette année, qui est un livre qui intéresse particulièrement les littéraires, intitulé « Conscience et roman 1 ». Ça veut dire qu'il y en aura d'autres ?
Oui, deux.
Comment ?
Il y aura un deuxième tome.
Il y aura un deuxième tome, intitulé « La conscience au grand jour », publié en 2009 aux éditions de Minuit. Et donc, c'est après que tu m'as envoyé ce livre que j'ai pensé que c'était bien de t'inviter ici. C'est donc un ouvrage qui interroge la littérature et tout ce qui concerne le monologue intérieur, les conversations intimes, l'intimité, chez Stendhal, Balzac, Hugo, Virginia Woolf, Faulkner, Beckett. Et c'est donc sur l'intimité, la conscience dans le roman moderne, sujet qui est proche de ce que nous avons tenté d'aborder l'année dernière et cette année dans ce cours. Son titre aujourd'hui, on va y retrouver Saint-Augustin, que j'évoquais par pure coïncidence aujourd'hui, mais il me disait à l'instant un autre Saint-Augustin, « Dire le deuil, Saint-Augustin, Saint-Ambroise et Saint-Bernard ».
Je remercie Antoine de Compagnon de son invitation aujourd'hui, même si le sujet dont je parle n'a rien directement de moderne ni de contemporain par les auteurs choisis. La parole du deuil, lorsqu'il s'agit d'un être proche, est une parole à l'impossible, où la voix ne s'élève qu'en révélant l'accablement qui la grève et l'obère. Et ne franchit le détroit de la gorge, noué par l'imminence des larmes, que brisé. Alors, elle dit le deuil autant par sa brisure et par sa propre interdiction, toujours pendante ou menaçante, que par ce qu'elle dit, et peut-être plus encore. Elle tente d'un effort renouvelé, et qui ne conquiert pourtant nulle assise, d'articuler l'inarticulable de la perte. De ce fait, que nous connaissons tous, elle entre dans un espace de paradoxe et d'oscillation, comme toute parole qui prend pour thème l'indicible. Ce qu'elle ne peut dire, elle le dit en disant qu'elle ne peut le dire, comme d'un geste où la main qui voulait désigner renonce et retombe, ouvrant d'autant plus de sa lasse impuissance l'espace enténébré, dont le vide la faisait se redresser. Saint Jérôme, au début d'une lettre de condoléance à l'oncle d'un certain Népotien dont il était lui-même l'ami, dit, avec un double chiasme du sujet et du verbe, que je respecte dans ma traduction de ce fait maladroite, « Il est paralysé, mon esprit, ma main tremble, il s'enténèbre mes yeux, ma langue balbutie. Stupet animus manus tremit, caligento curi lingua balbutit. Ce trouble déborde de son âme jusque dans l'instrument avec lequel il écrit et le support de l'écriture. Le style, il s'agit de l'instrument, n'est-ce pas ? Le style lui-même est comme sensible, quasi sentient, et la cire un peu triste se voile de rouille, ou de moisissure. Fin de citation. Bien que dans une perspective et une signifiance tout à fait différentes, ces paradoxes de la parole du deuil miment ou répètent souvent certains paradoxes portant sur la transcendance de Dieu. Du fait qu'il n'est plus nulle part, celui que nous avons perdu est partout. Et n'ayant plus aucun lieu dans le monde, il nous arrive de tous côtés. Saint Ambroise de Milan, dans le discours qu'il prononce le jour des funérailles de son frère bien-aimé, s'adresse ainsi à lui. « Tu es là, je l'affirme, et sans cesse tu te présentes, ades in quam et semper offeris, et toi, de toute mon âme et de tout mon esprit, je t'étreins, je te regarde, je te parle, je te donne des baisers, je t'embrasse, comprendo, que ce soit dans le silence de la nuit ou la clarté du jour. » Fin de citation. Mais cette omniprésence obsédante est, dans l'amour comme dans le deuil, la signature même ou le sceau de l'absence. L'oscillation ou la fluctuation affective permanente de la parole de deuil peut se fonder dans ce que Pascal, par deux fois, dit du portrait ou de la figure au sens biblique. Cela, je cite Pascal, porte absence et présence, plaisir et déplaisir. Absence et présence, plaisir et déplaisir, douceur et déchirement, consolation et désolation, ne sont pas simplement juxtaposés. Ils s'entrelacent et ne cessent de se renverser l'un dans l'autre. Citons l'explicit de la même lettre de saint Jérôme. « Celui que nous ne pouvons plus tenir en son corps, tenons-le par la remémoration. Et celui avec lequel nous ne pouvons plus parler, ne cessons jamais de parler de lui. » Mais les paroles échangées sur l'absent portent à l'incandescence la présence de son absence, l'irrévocable de la perte, puisque c'est parce qu'il ne sera plus jamais là qu'il faut toujours parler de lui pour qu'il soit là malgré tout. Saint Ambroise parle d'imago praesentis, d'image de celui qui est là, de celui qui est présent, mais cette image, c'est son frère défunt, mais cette image renvoie, je cite Ambroise, aux visions de l'esprit qui rendent de nouveau présent, representaret, celui que le regard du corps nous dénie. Phénoménologiquement, la présence essentielle, rassemblée, plénière, définitive de celui qui est, tel qu'en lui-même enfin l'éternité le change, conforme au profond jeu de mots hegélien sur Wesen et Gewesen, l'essence et ce qui fut, ce qui a été. Cette présence inépuisable en profondeur, précisément parce qu'elle est close et ne se renouvelle plus en elle-même, présence du mort, elle ne se renouvelle plus en elle-même, mais seulement par nos méditations, c'est par définition la présence d'un mort, cette présence plénière, rassemblée, totale, inépuisable. Cette oscillation et cet entrelac d'affects opposés est notoirement à l'œuvre dans les larmes du deuil, douces et amères à la fois, douces du fait d'être amères, nous rapportant à l'absent comme absent, en faisant tourner notre être autour du soleil noir de la perte. Saint Ambroise, comme saint Augustin, après bien d'autres, avant bien d'autres, avec leur talent propre, les ont décrites et analysées. Le genre littéraire de la consolation, qui relève à la fois de la rhétorique et de la philosophie, se présente comme une thérapeutique à cette détresse. Il ne s'agit évidemment pas ici, en quelques instants, d'en faire l'histoire. Il peut prendre deux formes très différentes, dont la seconde elle-même se subdivise. La consolation adressée à un autre dont nous ne partageons pas personnellement le deuil ou fort peu. La consolation à un autre dont nous partageons, pour avoir été proche du mort, la douleur et la détresse. Et la consolation à soi-même, même s'il va de soi qu'une fois prononcée ou publiée, elle est consolation virtuelle pour d'autres, dans des pertes analogues. Plutarque a écrit une lettre de consolation à sa femme sur la mort de leur petite fille de 2 ans, survenue en son absence. Cicéron a écrit une consolation pour lui-même, que nous avons perdue, à la mort de sa fille, laquelle, nous dit-il par la suite, cette consolation qu'il avait écrite, faisait feu de tout bois et rassemblait en une seule consolation tous les arguments possibles. Car son esprit était, dit-il, in tumore, on peut traduire dans un état critique, mais jouissons du français, étant donné la racine de tumor, n'est-ce pas ? Disons familièrement que Cicéron avait vraiment le cœur gros, le cœur très gros. Les auteurs chrétiens reprennent et transforment ce genre de la consolation et de la consolation par soi-même, mais devant Dieu et sous la motion de sa grâce. Je voudrais aujourd'hui évoquer quelques questions que soulève l'oraison funèbre que saint Ambroise de Milan prononce vers 378 sans doute, aux funérailles de son frère et collaborateur, suivi d'un autre discours une semaine plus tard. Le premier, celui prononcé le jour même, aura au fil des siècles un grand retentissement et est considéré par beaucoup comme fondateur, au moins chez les latins, de la forme chrétienne du genre de la consolation. Par la suite, saint Augustin, qui reçut le baptême par le ministère d'Ambroise, fait dans les confessions le récit rétrospectif de 2 deuils profonds. L'un, celui d'un ami très proche de son enfance et de sa jeunesse, au livre 4, l'autre, celui de sa mère Monique, sainte Monique, au livre 9. Le premier récit, celui de l'ami de jeunesse, d'enfance et de jeunesse, se situe avant sa conversion, l'autre après, et donc nous avons de ce fait, sous la plume de saint Augustin, une description du deuil, ou une diction du deuil, la première en dehors de la foi et de l'espérance, l'autre sous sa lumière. Bien des siècles plus tard, saint Bernard de Clairvaux interrompt ses sermons sur le Cantique des Cantiques, unanimement considéré comme un chef-d'œuvre littéraire et mystique, puisque nous sommes dans une chaire de littérature. Je conseillerais à ceux qui ne sauraient le lire en latin de lire dans l'admirable traduction d'Albert Béguin. Il y en a des plus récentes faites sur un texte plus critique, mais si on veut avoir une idée de la beauté des sermons de Bernard, il faut lire la traduction d'Albert Béguin. Donc, saint Bernard interrompt ses sermons devant ses moines sur le Cantique des Cantiques pour dire, c'est le sermon 26, la détresse où le jette la mort de son frère Gérard, lequel, comme celui de saint Ambroise, était son bras droit et comme son intendant. Ces divers écrits sont magnifiques et de haute tenue, et il y a une continuité littéraire entre eux, puisque les suivants ont lu les précédents, n'est-ce pas ? Sans compter le lien personnel d'Ambroise et d'Augustin. On ne peut en quelques instants commenter ces pages splendides, mais seulement essayer de dégager l'espace où elles se tiennent, s'agissant de l'acte de dire le deuil, et les exigences auxquelles elles doivent se soumettre, exigences neuves, au regard de la consolation païenne. La première dimension de cet espace est qu'il s'agit d'une parole tenue par quelqu'un, pour les trois susnommés, d'une parole tenue par quelqu'un qui a, comme on disait autrefois, charge d'âme. Cela implique, évidemment, que dans leurs propos comme de leur conduite, ils sont tenus de confesser leur foi et d'en enseigner le chemin. Cette responsabilité envers le corps collectif du Christ semble interdire l'expression, et a fortiori l'expression pathétique, d'une détresse privée dans l'exercice même de leur mission publique. Rappelons qu'au moment où ils écrivent ces pages, Ambroise et Augustin sont évêques et Bernard est l'abbé de son monastère. Et il parle en public, c'est pas en tant qu'individu privé. On attendrait de prime abord, comme le dit un chrétien ancien, Paulin de Nole, que fasse silence les affects d'un amour particulier, au moins dans la parole publique. C'est au demeurant l'attitude de saint Grégoire de Nazianze, dans l'éloge funèbre qu'il fait de son frère, encore un frère, Césaire. « Vous attendez sans doute, commence-t-il, que je me répands dans lamentation et vous invite à pleurer avec moi avant de prononcer un magnifique éloge. » Je résume. « Ce ne sera pas du tout le cas. » Je cite Grégoire de Nazianze. « Nous ne pleurerons pas plus que de raison celui qui s'en est allé. Nous qui n'admettons rien de tel chez les autres et nous ne le louerons pas au-delà de la mesure. » La seconde dimension de ces paroles, évidemment inséparable de la première, est que cette confession attendue est une confession de la foi en la résurrection. L'excès du deuil n'est-il pas une manifestation en acte du manque de confiance en la résurrection, diffidentia resurrectionis, comme en la présence du mort auprès de Dieu? Saint Jérôme, dans une lettre qui, malgré l'apparence, est de consolation, une autre lettre, écrit à la moniale Paula qui pleure sa fille. Mais attendez, avant de juger Jérôme, il y aura une autre citation. « Détestables sont tes larmes pleines de sacrilège, débordantes d'incrédulité, et qui lui paraissent presque une forme de suicide continué. Elles semblent donner aux païens, dit Jérôme, le témoignage de la vanité et de l'insincérité de la foi chrétienne, argument répété au cours des âges. » Ces deux exigences paraissent de prime abord violées, transgressées par le pathétique extrême d'Ambroise et de Bernard pleurant leurs frères respectifs. Le paradoxe de leurs paroles est en effet d'être une consolation éplorée, une consolation en larmes. Je n'invente pas cet oxymore. Un certain Hénode de Pavie, du début du VIe siècle, peu connu, s'inspirant de saint Ambroise, se dépeint comme un flens consolator, un consolateur en larmes. Mais déjà saint Jérôme, dans la lettre même que nous venons de citer à l'instant, où il est détestable sont ses larmes pleines de sacrilège, dans la même lettre, écrivait au début: mais qu'est-ce que nous faisons, nous-mêmes, qui nous apprêtons à interdire les larmes à sa mère? Nous pleurons. Je confesse mes sentiments, tout ce livre libère... Le livre, c'est la lettre, n'est-ce pas, conçue comme un petit traité de consolation. Tout ce livre est écrit avec des larmes. C'est ce paradoxe qu'il s'agit de méditer, comme de montrer qu'il ne contrevient pas aux deux exigences susnommées. Ces pages, soigneusement écrites, réécrites et publiées, même si elles décrivent et en quelque sorte font passer à l'acte, pour Ambroise et Bernard, font passer à l'acte l'oscillation des affects, ne sont en rien l'aveu incontrôlé et comme explosif d'un intime déchirement qui échapperait à son auteur. Elle porte un sens théologique qu'il s'agit de dégager. On peut faire crédit à ces grands esprits de savoir ce qu'ils disent et à ces hommes austères de savoir ce qu'ils font. Ces larmes écrites sont aussi une interrogation sur leur sens et leur objet, comme sur leur justification chrétienne. La confidence, dont il n'y a pas lieu un seul instant de mettre en doute la véracité, est tout entière au service de la confession, au sens théologique, elle en est, si l'on peut dire, la matière ou le matériau. Partons de saint Augustin, qui décrit avec rigueur, force et clarté, s'appuyant sur deux épisodes décisifs de sa vie, deux formes essentielles, deux essences diverses du deuil, le deuil désespéré et désespérant, et le deuil dans l'espérance. La mort de l'ami, au livre 4, qu'il avait connu dès l'enfance, avec qui il avait joué et étudié, survient lorsqu'ils ont tous deux une vingtaine d'années. C'est une double séparation, une séparation par la mort elle-même, et par le fait que peu avant cette mort, cet ami avait reçu le baptême, in extremis, en quelque sorte, ce qu'Augustin a devant lui tourné en dérision par des propos qui conduisirent le disparu à le prendre en horreur, je cite, « comme un ennemi », dixit saint Augustin. La description saisissante de la totale désorientation du jeune Augustin, lequel, dans les ténèbres douloureuses où il erre, ne sait plus du tout où il en est et prend tout lieu jusqu'à la lumière qui les éclaire en haine et en dégoût, cette description fait l'admiration, voire la fascination, des modernes. Un savant commentateur trouve même ça pré-romantique, n'est-ce pas ? Ce qui pour lui semble être une louange. Mais pour saint Augustin, cette description est une description du désespoir comme mal suprême de l'homme sans Dieu et de l'extrémité de l'égarement qui lui fait perdre toute tenue et toute consistance jusqu'à le rendre insupportable à lui-même sans pour autant qu'il puisse se fuir. Sa propre identité vacille dans le tourment de l'absence, le dégoût et la lassitude de vivre, fameux tedium vitae, le dégoût et la fatigue de vivre, encore, après l'autre, font du soi à soi-même une charge intolérable, car vivre sans l'ami est pire que mourir. Vivre sans l'ami est pire que mourir, mais, oscillation, conversement, le gouffre de la mort découvert par sa mort à lui, suscite simultanément dans le cœur d'Augustin l'angoisse et la panique. Cela conduit à de profondes réflexions rétrospectives sur la douceur et l'ambiguïté des larmes, où l'on jouit quelque peu de soi et de sa propre douleur en pleurant l'autre. Cela conduit à des réflexions rétrospectives sur la vanité, en quelque sorte. Je rejoins Ventus, Vanitas, la vanité d'une amitié qui n'est pas fondée en plus haut qu'elle-même et ne lui paraît donc plus véritable. Il décrit du reste ses efforts, à l'époque, pour remplacer l'irremplaçable ami disparu en d'autres liens qu'il cherche à nouer. À cela s'oppose point par point, comme dans une sorte de diptyque tout à fait délibéré, me semble-t-il, l'évocation de la mort de Monique, au livre 9, évocation qui forme un tournant des confessions. Je rappelle qu'avec le livre 9 s'achève ce qu'il appelle la confession du passé. Toute sa vie jusqu'à sa conversion, et il nous raconte en quelque sorte sa vie sous ce mode. Au livre 10 commence ce qu'il appelle la confession du présent, où il n'y a plus d'événements racontés, mais un examen de soi et une méditation philosophique et biblique qui, partant de lui, s'élargit à la totalité de l'univers comme à la totalité du temps de l'humanité. Or, la fin du livre 9, c'est le récit de la mort de Monique. C'est un point tournant dans la construction du livre. Les traits les plus émouvants de ce récit sont l'ellipse et la pudeur, qui contrastent avec le pathétique du récit de la mort de l'ami. Je cite juste la phrase par laquelle il décrit la mort de sa mère. Il est fait deux fois. Augustin et Monique sont décidés à vivre ensemble et se demandent où il serait judicieux et opportun de le faire, quel endroit choisir. Et c'est la fin d'une phrase. Et lorsque nous étions à Ostie, près du Tibre, la mère mourut. En français, on dirait ma mère, mais je traduis littéralement mater defuncta est. Point. À ce moment-là, il n'y a pas un seul mot, ni sur le mode de la mort de Monique, ni sur ses propres sentiments. Mater defuncta est. Et il passe à de longs développements sur la vie de sa mère, les dons de Dieu en elle, mais aussi ses manquements et ses faiblesses, leur commune contemplation mystique. Puis, après tout ce long récit, où il n'a rien dit du deuil, sinon l'événement de la mort, après ce long récit sur la vie de sa mère, il y revient avec la même sobriété, mais une sobriété qui, cette fois-ci, prend par la datation comme d'un événement historique, n'est-ce pas, une solennité tout à fait particulière. Ainsi donc, au 9e jour de sa maladie, à la 56e année de son âge, à la 33e de mon âge, cette âme, religieuse et pieuse, se détacha du corps. Point. L'énoncé même de l'événement de la mort l'inscrit cette fois dans l'horizon, même encore flou, de l'espérance. Cette âme religieuse et pieuse se détacha du corps, alors qu'il avait dit auparavant « Mater defuncta est ». Le célèbre récit qui suit décrit l'imminence de larmes abondantes ressenties lorsqu'il lui ferme les yeux. Par parenthèse, saint Ambroise nous décrit aussi cet acte. Il a recueilli le dernier souffle et il a fermé les yeux. Donc, il nous décrit l'imminence de larmes abondantes lorsqu'il y ferme les yeux, acte toujours parmi les plus graves de notre vie, larmes réprimées, dit-il, par un violent commandement de son esprit. À cet instant même, son fils, à lui, Adéoda, fond en larmes. Puis, sur la requête des autres, et non pas d'Augustin, des autres présents, les refoule. Je cite Augustin, « De cette manière aussi, ce qu'il y avait en moi d'enfantin, meum quidam puerile, ce qu'il y avait en moi d'enfantin et qui glissait vers les larmes, grâce à la voix d'homme jeune de mon cœur, fut contenu et demeura silencieux. » Les différentes traductions que j'ai consultées disent, ce qui n'est pas une erreur du tout, mais qui fait perdre une nuance importante du texte. Les traductions disent, grâce à ce qu'il y avait dans moi d'enfantin, de puéril, grâce à la voix virile de mon cœur. Mais dans le latin, c'est juvénile. Alors, juvénile, pour les latins, comme pour nous, d'ailleurs, on dit qu'à 35 ans, on est jeune, n'est-ce pas, ou 40 ans, c'est la voix d'homme jeune, d'adulte, mais d'homme jeune. Il oppose jeunesse et enfance, et non pas... Alors, il y a... C'est la jeunesse qui vint l'enfance en lui. Et le miroitement du fils et du père n'est pas du tout un miroitement qui se ferait depuis une hauteur condescendante, puisque justement il met son fils et lui en parallèle. La seule différence entre l'homme jeune et l'enfant, c'est que la voix qui réprime les sanglots d'Augustin est une voix intérieure et n'a pas besoin d'être la voix des autres. En tout cas, ces larmes réprimées, comme marquant trop de l'humaine faiblesse, inconvenantes, dit-il, pour qui ne voit pas dans la mort une misère pour qui meurt, et, je cite, comme une totale extinction, saint Augustin les contiendra, non sans lutte ni sans peine, pendant les cérémonies. Ce que saint Bernard dira de lui-même au sermon précité, il s'est fait violence et n'a pas pleuré jusqu'à présent, comme lors des obsèques et des rites funéraires qu'il a accomplis pour Gérard. Les autres pleuraient, et non pas lui, comme tout le monde a pu le voir et le constater. Revenons à Augustin. Plus tard, dans la solitude, il les laissera enfin se répandre, après avoir souffert de tant souffrir, et ne pouvoir se rendre maître de cette intime douleur, par laquelle sa vie est aussi, dit-il, mise en pièces, la lutte pour ne pas pleurer est une forme des larmes encore, une forme intérieure des larmes, et non la moins déchirante. Mais plus importante encore ici est, si j'ose dire, la métamorphose des larmes en devenir. Le passage à ce qu'il appelle, je cite, un tout autre genre de larmes, en l'occurrence les larmes de la prière d'intercession qu'il fait pour le salut de sa mère. Comme les larmes orantes qu'il invite parmi ses lecteurs éventuels, celui qui le trouverait coupable d'avoir pleuré, à verser sur lui au lieu de le juger. Cette métamorphose n'est au demeurant pas un renversement du tout au tout, car les larmes différées, les larmes repoussées, mais enfin versées, sont des larmes purifiées et, dit-il, offertes à l'écoute de Dieu, je cite, dont les oreilles étaient là. On peut, et saint Augustin dit seulement qu'on le peut, reprendre ou critiquer dans ses larmes une affection selon la chair, montrant, comme il avait dit plus haut, que l'habitude, où saint Augustin voit d'une manière générale le lieu de notre asservissement et de notre esclavage au péché, est une chaîne. Quoi qu'il en soit, Augustin finit dans la prière par confier à la miséricorde divine aussi bien l'éventuel caractère trop humain de ses propres larmes que le salut de Monique, laquelle n'est pas transformée par son affection filiale ô combien profonde en un être parfait. Cette interrogation sur les larmes qu'il verse, sur celle qui fut sa mère selon la nature et selon la grâce, celle à qui il fut prophétisé que le fils de si grandes larmes, filius tantarum lacrimarum, ne saurait périr, nous paraît aujourd'hui bien scrupuleuse, voire, de notre point de vue sentimental, trop rigoureuse. Mais ce diptyque des deux récits de deuil montre avec une forte lumière la distinction essentielle entre les larmes de désespoir, qui ont quelque chose d'égocentrique, et des larmes d'affection humaine inévitable qui se transfigurent en larmes de prière et d'espérance peu à peu. Cela, chez saint Augustin, est évidemment un récit rétrospectif. Venons-en à saint Ambroise et saint Bernard, dont la parole résonne, dut-elle être réécrite par la suite, au moment même du deuil et de son déchirement, et en tout cas se présente comme telle. Un chrétien cherche dans la Bible, comme parole de Dieu, la lampe de sa conduite, le mot de lampe est cher à saint Augustin, elle est donc naturellement discutée et examinée dans les diverses paroles de deuil. On corrige, on rassemble, comme saint Jérôme ou Paulin de Nole ou Bernard de Clairvaux, des passages bibliques sur les larmes dans le deuil, mais s'il s'agit de l'Ancien Testament, on peut en tirer diverses conclusions et discuter en divers sens. La seule autorité indiscutable pour un chrétien en faveur de ses larmes de deuil est le verset de l'évangile de Jean 11:35 « Eda crucen o Iesus, Jésus pleura ». Ce sont les larmes que Jésus verse sur la mort de Lazare, qu'il va pourtant ressusciter et dont il avait annoncé auparavant qu'il allait le réveiller. Je vais quand même citer un auteur moderne. Dans le grand poète John Donne, n'était pas simplement un grand poète, mais également a écrit de très beaux et très abondants sermons dans ses fonctions ecclésiastiques. Même Virginia Woolf disait qu'un dimanche d'ennui, on fouille dans le grenier, on trouve un volume poussiéreux des sermons de Donne, et on regarde et on s'aperçoit qu'après tout, ce n'est pas si mal que ça, n'est-ce pas ? Ça mérite d'être lu. Donc, John Donne a consacré un sermon à ces paroles, « Jésus pleura ». Et il fait remarquer que ceux qui ont divisé la Bible en versets, on fait de ce verset constitué de deux mots dans la traduction « Jésus pleura » ou à cause de l'article « trois mots en grec « et d'acrucène au Iesus », ils ont fait de ces deux ou trois mots un unique verset comme voulant, dit John Donne, souligner par là son extrême importance et le fait qu'il faut le mettre comme le considérer en lui-même. Alors, ça paraît trancher tout à fait la question en faveur d'une légitimité des larmes du deuil, si Jésus lui-même a versé des larmes de deuil. Mais il y a les paroles de saint Paul, dans la première épître aux Thessaloniciens, que les exégètes récents nous disent être sans doute l'écrit le plus ancien par sa date du Nouveau Testament. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez ignorants au sujet des morts. » C'est ceux qui dorment dans le texte grec. « Il ne faut pas que vous vous désoliez comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » Saint Ambroise se l'objecte à lui-même, ce texte biblique, et en conclut qu'il vaut mieux que ses ouailles écoutent ce texte plutôt que d'imiter la conduite d'Ambroise lui-même. Tertullien, dans son De Patientia, citait cette phrase de saint Paul pour en tirer qu'il n'y a pas non plus d'excuse à cette forme d'impatience manifestée à l'occasion de la perte de ses proches quand on se couvre du droit à éprouver de la douleur. « Puisque la résurrection des morts est certaine, dit encore Tertullien, elle n'a pas de sens, la douleur devant la mort, elle n'a pas non plus de sens, l'impatience de la douleur. » Mais le texte de saint Paul n'est pas si clair que cela, comme pour exclure les larmes, car il évoque ensuite la nécessité de se réconforter entre soi. Il veut dire plutôt, d'après les exégètes les plus autorisés, que les chrétiens ne doivent pas manifester leur deuil de la même et exacte manière que les païens, et non pas qu'ils ne devraient en manifester aucune. Alors, le problème, ça devient celui du regret. Et vous savez que par une des merveilles du latin, le regret, c'est desiderium, le même mot qui a donné notre désir, c'est le regret. Le regret est légitime et il n'est pas la même chose que le désespoir. C'est la légitimité du regret, et donc de son expression, qui est l'issue de l'aporie du deuil chrétien. Paulin de Nole évoque les larmes qui ne viennent pas, j'avais cité une partie de l'expression, qui ne viennent pas de la défiance envers la résurrection, non diffidentia resurrectionis, sed desiderio caritatis, mais par le regret que l'amour éprouve ou ressent. Saint Jérôme note qu'en dépit de l'espoir de la résurrection, l'affect du regret, desideri affectus, brise l'esprit plein de foi. Il nous brise, mais il n'abolit pas la foi comme telle. Les chrétiens ont donc eux aussi besoin d'une consolation dans le deuil. Il est significatif que saint Ambroise, dans un autre de ses ouvrages, désigne rétrospectivement ses deux discours sur la mort de son frère comme libri consolationis et resurrectionis, les livres de la consolation et de la résurrection. Le livre de la consolation, c'est celui que nous évoquons, c'est une autoconsolation, le jour des funérailles, où le pathétique personnel est intensément présent. Le second discours, prononcé une semaine plus tard, a plus la forme d'un traité. Donc, c'est encore un diptyque, différent des deux récits de saint Augustin, puisque ces deux volets sont bien de la lumière de la foi, mais distinguant le choc même de la perte et le déchirement qu'elle suscite, le jour des funérailles, d'une part, et d'autre part, l'horizon de l'espérance sous lequel on était déjà, mais qui était voilé et qui peu à peu redevient plus clair et plus visible. Il demeure que les accents profondément pathétiques d'Ambroise et de Bernard font question par leur extrémité même. Même dans une conférence sur dire le deuil, j'imiterai mon prédécesseur en mettant tout de même un peu d'humour, un partisan peu connu d'Abélard, dont je rappelle, s'il le faut, que saint Bernard le combattait fortement, Béranger le scolastique, a lancé à ce propos, contre le sermon 26 de Bernard, sur la mort de son frère, une attaque extrêmement violente, où il fait feu de tout bois pour le déconsidérer et le ridiculiser. Bernard commettrait, d'après ce Béranger, avec l'éloge funèbre de son frère, à la fois une inconvenance théologique et une faute de goût. Le cantique des cantiques, dit-il, c'est le chant nuptial de Dieu et de l'Église, du Verbe divin et de l'âme. Mais voici que dans cette haute joie, je cite, une trompette funèbre, tout à coup, retentit. C'est Bernard qui apporte son mort, mortuum suum, qui apporte son mort au milieu des noces. Ce sitariste, je cite les expressions de Béranger, n'est-ce pas ? Ce sitariste, sans discernement et sans élégance, présente des mélodies funèbres au banquet royal. La tragédie, dit tragédie, et c'est pas un terme laudatif pour un médiéval ou pour désigner un sermon. Mais la tragédie éclate au beau milieu de la joie nuptiale. C'est peu chrétien, d'après son critique, et de mobiliser par surcroît l'art poétique d'Horace pour dire que c'est une hybridation monstrueuse des genres littéraires entre traîne et chant nuptial. Par ailleurs, Béranger susurre que Saint Bernard, ce qui est faux, ne ferait que plagier Saint Ambroise et chercherait la récompense et la réputation qui vient des halios sous-dorés, de l'effort d'autrui, littéralement, de la sueur d'autrui. Et puis, est-ce que c'est bien sincère, tout ça ? Est-ce que Bernard, dit Béranger, ne cherche pas avant tout les expressions les plus belles qui disent la douleur plutôt que de verser de véritables larmes ? Tout ceci n'est peut-être, en quelque sorte, que du vent. Ce n'est pas fait exprès. Je ne savais pas du tout qu'Antoine Compagnon parlerait de là. Alors, à défaut d'être juste et d'une méchanceté inouïe, c'est au moins piquant et amusant pour montrer la question que pose l'hyperbole du pathétique. Un ouvrage qui fit date voyait dans l'importance de l'affectivité et de l'expression du regret ce qui distingue la consolation latine chrétienne de la consolation païenne. On l'a contesté en évoquant les chants de deuil de la poésie, mais la question est peut-être mal posée. Car il faut se demander pourquoi ce pathétique, que ses formes littéraires soient neuves ou ne soient pas, est présent dans la consolation ou l'autoconsolation chrétienne, où le contexte théologique et le genre même du sermon lui donnent nécessairement une signification neuve. La première spécificité de la parole de deuil chrétienne est que la foi en la résurrection dégage l'espace du regret personnel comme tel. Dans le tremblement de la voix, sur une privation et un malheur qui n'est que nôtre, on pleure non sur l'autre, mais sur soi, sur notre privation, sur notre séparation. Et donc cette parole du deuil est une parole de soi. Il est passé vers la paix de Dieu, alors que nous restons ici, privés de lui, dans la lutte, la tempête, le dénuement. Il a rejoint le port, nous sommes ballottés par les tourments du temps. Cela tient d'ailleurs d'autant plus chez Bernard ou Ambroise au caractère tout à fait serein de la mort, pacifié de la mort de son frère, comme celle de Monique pour Augustin. La seconde spécificité, peu remarquée, mais qui me paraît absolument décisive, concerne l'identité de celui que nous pleurons. Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? Qui est ce mort qu'on pleure ? L'identité du mort, pour les trois concernés, ne se définit pas essentiellement selon la chair et le sang, mais selon l'appartenance au corps du Christ collectif, lequel, le cas échéant, inverse ou transforme notre position selon l'ordre généalogique. C'est ainsi que Saint Bernard, dans un très beau passage que je ne peux pas citer par ailleurs, décrit son frère comme un frère par la charité, donc autrement par le sang, sous un autre nom, comme un aîné par la sollicitude, comme un cadet par le respect et comme un père par le soin qu'il prenait de lui. Donc, Gérard est à la fois son frère en un autre sens, son aîné, son cadet et son père. Il était tout cela. Saint Bernard, quant à lui, dit que son lien avec Gérard était non pas de consanguinitas, de sang, mais d'unanimitas, unité d'esprit. Et il dit des choses comparables. Comment n'aurait-il pas été mien, lui qui fut mon frère par le sang, mon fils par la profession religieuse, mon père par la sollicitude, mon compagnon par l'esprit, mon intime par l'affection. Quant à saint Augustin, il dépeint sa mère comme ayant engendré ses fils, qui ne sont pas seulement ses fils selon le sang, partout Riens, plusieurs fois, donc elle est mère, multipliant sur la grâce, et elle se comportait vis-à-vis d'eux, avec une grande humilité, qui faisait que c'était comme si elle avait été genita, engendrée par eux. Donc la mère se comporte aussi comme si elle était une fille. Vous voyez, tout est bouleversé des liens généalogiques au profit de nouveaux liens spirituels. Donc le lien qui est brisé n'est pas seulement un lien familial, c'est un lien spirituel multiple qui légitime que la communauté chrétienne s'associe à ce deuil. Deux autres spécificités ne sont pas universelles en cet ordre, mais se présentent dans les trois écrits que nous étudions. Il y a un contraste frappant entre le pathétique du locuteur et la mort sereine, acceptée, tranquille, illuminée d'espérance, de Monique, du frère d'Ambroise ou de Bernard. Cela ne souligne que plus fortement la violence de la douleur et du trouble chez ceux qui survivent. Ce contraste est celui du voyage et du port, du combat et de la victoire, du danger et de la sécurité, de la vie temporelle et de la vie éternelle. À cela s'ajoute que saint Augustin met en évidence à de multiples reprises le rôle essentiel dans sa conversion de la prière d'intercession de sa mère et que saint Ambroise et saint Bernard se présentent, comme n'ayant été capables d'accomplir leur fonction et leur tâche de responsabilité que grâce à la compétence, au soutien, à l'assistance de leurs frères. Ils se présentent quasiment comme des incapables, vous voyez, sans leurs frères, ils n'auraient rien pu faire du tout. La fragilité et la faiblesse du locuteur sont donc singulièrement mises en avant dans les discours d'Ambroise et de Bernard, comme dans l'ensemble des confessions de saint Augustin. Ceci est très important. J'en viens à ma conclusion sur des choses qu'on pourrait évidemment développer sans fin, étant donné la richesse de ces textes, et juste en tracer l'espace. Le paradoxe dont nous partîmes, du flens consolator, du consolateur en larmes, révèle ici, à la lumière de ce que je viens de dire, la plénitude de sa fonction théologique et pastorale. L'évêque, l'abbé, l'homme d'autorité morale et doctrinale, dans les trois exemples que j'ai pris, se confesse en public dans sa faiblesse, sa tentation, son indigence, sa misère, se confiant lui-même dans son désarroi à la grâce de Dieu et à la prière de la communauté à laquelle il s'adresse. Ils enseignent par là, de façon toute paulinienne, que la prière est la seule source de force et de consolation, une source qui, comme la manne biblique, n'est donnée que pour chaque jour. Ils enseignent que nul ne peut se suffire et que la respiration spirituelle est une conspiration, si je prends ce terme au sens stoïcien, lénitien et étymologique, le fait de respirer ensemble, conspirer, un souffle échangé et pris ensemble. C'est précisément en ne prenant pas de hauteur, en ne se faisant pas fort de leur force, qu'ils sont véritablement des pasteurs. C'est en tombant qu'ils montrent ce qui seul peut relever. Et ce qu'il montre va très loin, puisqu'il ne montre pas simplement quelque chose d'eux-mêmes, il montre aussi, en particulier s'agissant du sermon 26 de Bernard, une dimension divine absolument inconnue aux païens et à la théologie païenne, saint Bernard énonçant dans ce sermon de deuil l'une de ses thèses théologiques les plus profondes et les plus célèbres, thèse selon laquelle in passibilis est Deus, sed non in compassibilis. Dieu est sans passion, mais il n'est pas sans compassion. Je vous remercie.